Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. La femme que vous apprêtez à entendre est une maman comme les autres, à la différence que son visage et sa voix sont connus de tous. Alix Bâtard a présenté le journal du Trésor sur RTL TV pendant des années. Et quand elle n'était pas dans notre écran, c'est qu'elle s'occupait la plupart du temps de ses deux filles, Georgia et Théodora. Ses filles ont maintenant 7 et 9 ans, et près de 10 ans après sa première grossesse, Alix revient sur ses débuts en tant que mère. Comment c'était d'accoucher il y a 10 ans? Était-ce possible de faire fi des injonctions que la société nous impose et de suivre simplement son instinct maternel? Et puis comment faire en tant que mère pour tenir bon quand le ciel vous tombe sur la tête et qu'on vous apprend que votre fille de 2 ans et demi est atteinte d'un cancer? Bonjour Alix et merci d'être venue partager ton histoire avec moi.
Avec plaisir, bonjour tout le monde.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, même si j'imagine que certains reconnaîtront ta voix?
Je suis un peu enrhumée justement aujourd'hui, alors je sais pas si ma... J'espère que ma voix sera justement pas trop déformée. Je m'appelle Alix Bâtard, j'ai bientôt 39 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 9 ans et 7 ans. J'ai travaillé à RTL, je travaille toujours à RTL, mais j'ai travaillé à la rédaction d'RTL pendant 17 ans, j'ai présenté le journal pendant 12 ans, puis je viens d'arrêter le journal télévisé, un besoin de grands changements, et on va relancer une émission assez mythique d'RTL qui s'appelle Place Royale, et je travaille sur d'autres projets à côté qui, j'espère, verront le jour en 2024.
On n'est pas là, évidemment, pour parler boulot, mais pour faire un focus sur toi et ta petite famille, enfin ta grande famille, finalement.
Oui, c'est vrai, parce que je suis aussi belle-mère.
Oui.
Parce qu'on est une famille recomposée. Mon mari avait déjà 3 enfants quand je l'ai rencontré. Il y a 5, enfin, mes deux filles ont 3 frères et sœurs.
Est-ce que au quotidien, vous êtes avec les enfants de ton mari?
Non.
Plus maintenant?
Non, parce que heureusement pour eux, ils ont 29 ans, 27 ans, 23 ans. Heureusement pour eux, ils ne vivent plus chez leur papa et leur belle-mère. Ils ont habité quand même pendant longtemps. En même temps, ils ont été très vite indépendants. Ils ont très vite eu leur cote d'étudiants. Et donc, ils ont étudié à l'étranger aussi en partie. L'aîné de Laurent travaille à l'étranger, a étudié à l'étranger. Donc, elle vit carrément à l'étranger. Donc non, ils ne vivent plus avec nous, mais ils sont toujours les bienvenus. Le dimanche soir, on fait des pizzas à la maison. Ils savent que tous les dimanches soirs, la porte est ouverte pour venir dîner à la maison. Et on est famille recomposée dans le sens où ils font complètement partie de notre famille. Les filles, vraiment, c'est leurs frères et sœurs de façon à l'école. Pour eux, pour elles, leurs frères et sœurs, enfin, ils sont 5. Okay. Mais au day-to-day, ils sont à la maison. Et il y a un gap générationnel qui fait effectivement que dans nos activités du quotidien, ils sont moins présents avec nous.
Et alors moi, j'ai l'habitude de demander à mes invités comment ils ont rencontré le papa de leurs enfants. Mm-hmm. Donc si tu peux faire un petit retour en arrière, ouais, et nous expliquer.
Alors moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Je pense que si on doit faire une checklist de tous les trucs qu'on ne conseille pas ou qu'on ne souhaite pas pour ses enfants, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je suis tombée amoureuse de mon patron, qui avait 17 ans de plus, qui était divorcé, qui avait 3 enfants. Donc voilà, j'ai fait le strike total des trucs qui, a priori, tu te dis... Bon, allez, ça pourrait quand même aller s'il est plus âgé, mais disons il n'a pas encore eu d'enfant. Ou ça pourrait aller si il a déjà des enfants, mais c'est la même génération. Ou ça pourrait aller si c'est ton patron, mais... Enfin bon, bref, là, moi, j'ai fait le strike. C'était pas vraiment prévu, comme quoi on choisit pas du tout de qui on tombe amoureuse. Et donc, voilà, de manière évidente, je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. Moi, je me serais jamais imaginé, c'était pas du tout dans ce que j'aurais pu projeter dans des liens, justement, professionnels. Je ne serais jamais dit qu'on pouvait, c'était même autorisé de sortir avec son patron. Mais voilà, un jour, il m'a envoyé un message, j'avais fait une chronique à la radio, il m'avait entendu, une chronique culturelle, je faisais des chroniques sur des événements culturels. Et il m'a entendu, et il m'a envoyé un message en disant c'est génial ce que tu fais, tu m'as vraiment donné envie de découvrir cette exposition. À l'occasion, si tu voudrais faire une expo avec moi, ça me ferait plaisir. Et moi, j'étais, j'avais pas son téléphone dans mon téléphone et je me disais, mon Dieu. Et puis voilà, on est un peu restés en contact en mode, lui était intéressé vraiment par mon travail, je pense, de manière sincère. Et puis moi, je le trouvais assez séduisant, mais aussi charismatique. Et puis bon, on a commencé à discuter et je m'autorisais pas vraiment cette relation au début, voilà, pour les raisons que j'ai expliquées. Et puis finalement, voilà, il en est sorti un amour vraiment sincère et donc d'une histoire qui a été pas mal cachée au début parce que on a eu du mal à l'assumer justement professionnellement. Et puis oui, socialement et tout ça aussi, c'était pas dans mes codes. Voilà, on a surpassé tout ça et on s'est marié, on a fait deux enfants.
Et le fait que lui était déjà papa, ça t'a jamais refroidi, on va dire?
Si, et tout était compliqué, tout était compliqué. Vraiment, je dois dire que plus d'une fois, et pendant longtemps, je me disais, je l'aime, je suis heureuse avec lui, je suis amoureuse de lui, avec lui c'est simple, c'est une super histoire, mais je ne me projetais pas, je me disais, voilà, ça va vivre un temps, mais il est évident que je ne vais pas faire ma vie avec lui pour toutes les raisons que j'ai énumérées. Donc, si tout était compliqué. Et puis quand je me disais, oui, mais enfin, c'est difficile quand même qu'il ait des enfants, mais il n'y avait pas un truc qui pouvait rattraper un autre, quoi. Je me disais, et en plus de ça, on partage la même vie professionnelle, et en plus de ça, il est quand même plus âgé, donc tout était compliqué à assumer, honnêtement. Et puis à un moment, je suis revenue à l'essentiel, je pense, de ce que une histoire d'amour doit être. C'est. Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce qu'elle me rend heureuse? Est-ce que quand on est à nous deux, c'est simple? C'est évident. Et c'était le cas. Alors tout à côté était compliqué, mais quand on était à nous deux, c'était simple et évident. À un moment, quand j'étais dans des grandes hésitations, Laurent m'a dit, fais-moi confiance. Ça va être chouette, nous deux. Et je me suis dit, bah oui, on va faire que ce sera chouette parce que j'ai envie que ce soit chouette avec toi. Mais j'aurais pu décider que non, que pour toutes les raisons que j'ai dit, c'était trop compliqué. Et je suis convaincue que je serais tombée sur quelqu'un d'autre aussi de chouette. Je pense que même si on choisit quelqu'un de sa génération, du même âge, bien malheureusement, on peut avoir un cancer, on peut mourir d'un accident de voiture, il peut se passer plein de choses dans notre vie qui peuvent malheureusement faire basculer une histoire. Et donc, est-ce qu'il faut s'arrêter à une différence d'âge? Finalement, j'ai décidé que non. Est-ce qu'on doit s'interdire d'avoir une histoire sur son lieu de travail parce que c'est compliqué, on partage la même vie professionnelle, ça peut être un peu lourd parfois. Mais aussi finalement, on en a fait une force de se dire, mais on se comprend très bien. Et puis aussi parce qu'on a été très très scrupuleux sur notre lieu de travail, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, Laurent n'a jamais fait mes évaluations par exemple, on n'a jamais mélangé sur notre lieu de travail notre histoire d'amour, notre histoire personnelle et nos relations professionnelles. On a été très très scrupuleux là-dessus. On s'est imposé des filtres et donc ça a finalement assez bien marché. On n'en a pris que le positif, c'est-à-dire qu'on comprenait les difficultés liées à notre métier.
Le fait que tu sois devenue belle-mère finalement avant d'être mère, est-ce que c'est les enfants de Laurent qui t'ont donné envie d'être maman?
Non.
Là, du coup,
Enfin, pas, mais je dis pas ça
oui,
négativement.
bien sûr. C'était avec quel âge et eux avec quel âge à ce
Donc
moment-là?
moi j'avais 20 quand j'ai rencontré Laurent, j'en avais 25 je crois quand on a commencé à sortir ensemble et eux en avaient déjà 16, 13 et 10 ans.
Ok,
Donc ils étaient
ouais.
déjà c'était déjà des ados et donc j'ai pas eu ce côté petite enfance navette histoire du soir, j'ai pas eu de j'ai pas dû jouer le rôle d'une maman pour dire les choses franchement. Et en fait, j'étais plus à l'aise avec ça. J'avais envie de découvrir la maternité avec mes enfants. Et j'aurais peut-être eu un peu plus de mal de devoir jouer une maman alors que je ne l'étais pas encore avec des enfants qui n'étaient pas les miens. Je crois que ça, c'est vraiment peut-être des barrières mentales ou j'en sais rien, des degrés d'acceptation qui sont différents pour chacun. Moi, j'ai trouvé ça plus facile comme ça. J'avais déjà envie d'être maman avant. Et de nouveau, j'ai pas découvert avec eux la maternité ni l'expérience de. Je me suis pas dit au travers d'eux quelle mère j'allais être moi, parce qu'ils étaient déjà plus grands, j'étais dans une relation différente avec eux, plus de complicité, mais qui n'était pas dans un rapport maternel. Donc non, j'ai pas découvert quelque chose de la maternité avec eux. Mais par contre, j'ai découvert qu'elle allait être le père de mes enfants. Je le voyais comme papa et je trouvais que c'était un super papa. Et donc, je me suis dit, bon, il pourrait quand même être un chouette papa potentiellement. Après aussi, je n'aurais jamais évolué dans une histoire avec mon mari si dès le début, il n'était pas clair qu'il voulait refaire des enfants.
Oui, vous avez eu la conversation assez
Oui, très
vite.
vite. Très,
D'accord.
très vite. Parce que moi, c'était clair que je voulais être maman. Et si pour lui, c'était... il avait son compte, ce que j'aurais aussi tout à fait respecté. Je pense que ça aurait été la fin de notre histoire. On aurait peut-être vécu encore ce qu'on avait à vivre parce que j'étais jeune et que j'en faisais pas une priorité non plus. J'étais pas pressée d'être maman. Mais c'est clair que s'il n'avait plus voulu avoir des enfants, je me serais interdit d'aller plus loin dans cette histoire.
Tu disais que tu n'étais pas pressée d'avoir des enfants, mais ton rapport à la maternité avant ça, c'était quoi? Autour de toi, toutes tes copines avaient déjà des
Oui,
enfants
pas mal. Mes copines se sont mariées quand même assez vite. Certaines étaient déjà mamans depuis déjà quelques années, genre 5-6 ans. Donc j'étais plutôt dans un environnement avec, où les gens faisaient des enfants. Moi, j'ai toujours voulu être maman sans avoir vraiment un appel. J'avais pas d'horloge biologique, j'avais pas un appel animal de la maternité. Je me suis toujours vue mère. J'ai jamais projeté des choses très concrètes sur le fait d'être maman. Ça me semblait évident que je voulais avoir des enfants, mais sans véritablement en faire tout un projet très très. C'était pas big deal pour moi. Ça me semblait évident. J'ai des frères et sœurs. J'ai une super bonne relation avec mes parents. J'étais claire que je voulais être maman, mais je savais que c'est pas quelque chose qui allait prendre toute la place dans ma vie non plus.
Mais finalement, t'es devenue maman, t'avais quel âge alors?
28 ans.
Donc plutôt jeune,
Oui,
quoi.
j'aurais pu attendre, mais du coup, comme finalement j'avais choisi que c'était Laurent, mon mari, le père de mes enfants, et qu'il était déjà plus âgé, et qu'il avait déjà des enfants, ben voilà, c'est sûr qu'on n'a pas attendu 10 ans avant de les faire.
Ouais.
Je pense que si j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, et si j'avais plutôt choisi, je pense que l'amour, c'est vraiment un choix. À un moment, je crois qu'on est potentiellement faite pour plusieurs personnes. Dans une vie, j'ai eu d'autres grandes histoires d'amour. Je pense qu'on est vraiment faite pour pourrait vivre avec d'autres personnes. On peut construire avec différentes personnes, mais à un moment, on choisit que c'est cette personne-là. Ça permet de relativiser aussi les choix qu'on fait. On n'est pas fait âme sœur pour une personne, ça, j'y crois pas. Et
Dis-moi.
donc, comme on avait décidé que notre chemin était ensemble, ben là, c'est sûr qu'on n'a pas attendu avant de faire des enfants parce que bon, Laurent n'avait pas envie d'être un trop vieux papa. Et puis.
Vous vous mariez et puis très vite, combien de temps après vous vous
Non, en fait,
décidez
je tombe enceinte. Dans l'ordre, il me demande en mariage, on se fiance, et puis dans le temps de fiançailles, en fait, je tombe enceinte. Et donc, je me suis mariée civilement enceinte, et
Et...
puis après, j'ai accouché en février, on s'est mariés civilement en septembre 2013, j'ai accouché en février 2014, et puis on s'est mariés religieusement en août 2013. 14.
Et comment s'est passée cette première grossesse alors?
Vraiment super bien. J'ai eu une belle grossesse. Je m'aimais bien enceinte. J'étais confortable. J'ai pas été malade. Non, j'ai eu une belle grossesse. J'étais un peu alitée sur la fin, le dernier mois, je crois. Le dernier mois, j'ai eu beaucoup de contractions, mais voilà, parce que j'avais aussi tout en même temps. On a acheté une maison, on a fait des travaux, on a déménagé, un peu le classique de on fait tout en même temps. Et je bossais aussi beaucoup. J'étais à ce moment-là encore beaucoup sur le terrain, à moitié à l'antenne, à moitié sur le terrain. Donc j'étais quand même assez active. Et donc le dernier mois, j'étais alitée. Mais sinon, globalement, j'ai eu une super belle grossesse.
T'as pas ralenti ton rythme
Non.
par rapport à ta profession,
Non,
quoi.
non, non,
Ok.
non.
Je sais pas si à ce moment-là, l'accouchement était quelque chose que t'avais envie de préparer à fond ou pas, mais est-ce que t'avais fait un projet de
Non,
naissance? Comment t'envisageais tout ça à ce moment-là?
non, j'ai pas réfléchi. On était un peu moins, donc c'était il y a 10 ans, on était quand même un peu moins. C'était le début de, on réfléchit à un projet de naissance, mais c'était pas hyper courant de vraiment de. Oui, j'avoue, on a même pas, j'ai même pas fait un cours ni d'aptonomie, ni un truc de communication, enfin connecter bébé, truc et tout. Je trouve ça génial. mais je n'ai rien fait.
Ouais, mais c'est pour ça que je te demande, parce que, en fait, c'est drôle, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Maintenant, à la limite, le projet de naissance est, je ne vais pas dire indispensable, mais presque tous les parents y pensent, quoi, ils le préparent.
Je trouve ça chouette de se projeter. Certainement que si j'étais enceinte aujourd'hui, je le ferais, parce que c'est vrai que ça semble plus courant. Mais avoir un bébé, la naissance, un accouchement et l'arrivée d'un enfant, n'est pas raté non plus si on ne le fait pas.
Enfin, oui, tout à fait.
J'ai eu un super accouchement. Je pense qu'on a accueilli notre fille de manière belle et je garde tous les souvenirs et j'ai des photos dans mon téléphone. On n'avait pas de photographe dans notre salle d'accouchement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout ce qu'on propose aujourd'hui, le full package de la naissance consciente. Et pourtant, c'était génial aussi, donc c'est pas obligatoire non plus. Donc non, j'ai pas réfléchi à tout ça. J'aurais aimé, a posteriori, hein, je pense, vu mon style de vie aujourd'hui, et quand même très aussi consciente de faire attention aux enjeux, de tout ce qui nous entoure, et même la façon dont je m'alimente et tout ça, je pense que ça m'aurait correspondu d'accoucher de façon 100% naturelle et tout ça. Mais j'y ai pas vraiment réfléchi et je suis arrivée à l'hôpital. J'avais tellement mal, j'ai trouvé que c'était tellement douloureux que je me suis jetée sur cette table. J'ai hurlé sur l'anesthésiste en disant mais donnez-moi une péridurale tout de suite. Et donc oui, voilà, non, je n'ai pas réfléchi. En fait, je suis d'abord arrivée à l'hôpital une première fois en début d'après-midi. Je pense qu'ils savaient que j'étais en train d'accoucher, mais qu'ils se sont dit ouh là là. Elle est vraiment loin du compte, on va la remballer chez elle. Et donc, on m'a dit, vous n'êtes pas en train d'accoucher, prenez un bain, vous avez des contractions, mais vous n'êtes pas en train d'accoucher, madame. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un bain, et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ok, c'est peut-être pas l'accouchement, mais si j'ai tellement mal, je dois quand même retourner à l'hôpital, parce qu'il se passe quelque chose. Et donc, j'ai dit, écoute, je suis désolée, mais on doit retourner, j'ai trop mal. Donc, franchement, je ne pouvais pas tenir chez moi, quoi. Et donc, on est retourné à l'hôpital, mais c'est-à-dire 2 heures après. Et là, j'étais déjà genre à 9 cm. Donc, en fait, j'avais fait un énorme travail très rapide, où ils m'ont renvoyé chez moi, alors qu'en fait, j'étais complètement en train d'accoucher. Et donc, quand je suis revenue pour la deuxième fois, là, j'ai dit, écoutez, je me suis jetée sur cette table. Mon mari m'a déposée en bas de l'hôpital. Il allait se garer. Moi, j'ai pris l'ascenseur toute seule. J'ai poussé la porte. Je suis jetée sur cette table d'anesthésiste et j'ai dit, faites-moi une péridurale. Je suis en train d'accoucher et je gueule de mal. Et donc, j'ai eu une péridurale. Et puis là, après, j'étais chill et j'ai accouché super vite. Oui, parce que je suis revenue à l'hôpital, il était genre, je sais pas, à 5h et j'ai accouché à 7h30.
Bah après, t'avais fait le travail chez toi aussi.
Oui, donc, oui, donc non, facile, tout facile, pas trop mal, belle naissance.
Quel souvenir t'en gardes de ces premières semaines, ces premiers mois de naissance?
J'ai vraiment beaucoup aimé l'hôpital. Je trouvais que c'était chouette. C'était encore un moment où on restait encore un peu de temps à l'hôpital. Aujourd'hui, on nous remballe très vite à la maison. Là, c'était vraiment cool. Mes copines sont passées. J'étais avec mon bébé en fusion. Vraiment, j'étais en fusion avec mon bébé. J'ai dormi avec mon bébé pendant... Je sais que c'est déconseillé, mais j'ai dormi avec elle sur moi pendant près de 2 mois dans le même lit. Mais sur moi, quoi. Donc, j'étais vraiment en fusion. Et tout ça, je ne savais pas. Je ne m'étais pas dit, elle va dormir là, ou elle va dormir là, ou elle va avoir un lit comme ça... ça me semblait normal de l'avoir sur moi. J'avais envie de l'avoir sur moi. Donc, je l'ai gardé sur moi et j'ai dormi avec elle pendant 2 mois. On a fait chambre à part. Et ça, je le recommande à mort. Enfin, j'ai trouvé que c'était super agréable. On est dans sa bulle. Il ne faut pas se mentir. En fait, au début, le mari est un peu inutile. Enfin, on l'aime, mais au début, il passe un peu au second plan. On a envie d'être avec son bébé. Enfin,
t'as allaité, en fait ?
J'avais pas envie de déléguer, en fait. J'ai quasi pas allaité. Okay. J'ai allaité la première semaine. Mon mari était super supportif, a toujours fait énormément, mais j'avais envie de faire moi.
Ouais, t'es devenue un peu maman louve, quoi.
Oui, quand même. Mais j'ai maintenu d'avoir une vie professionnelle très, très active. Et en même temps, j'étais complètement maman quand j'étais maman. Enfin, difficile équilibre, mais j'ai vraiment fait les deux, quoi. De nouveau, j'ai pas eu de projet trop de allaitement, pas allaitement. Je me suis dit, si ça marche, j'allaite. Si ça marche pas, j'en fais pas une grande histoire. Moi, je suis d'une génération où ma maman nous a pas allaité, aucun de nous trois. J'ai une grande sœur, un petit frère. Et on est en parfaite santé, on n'a jamais été malade. Donc, j'avais pas cette pression de l'allaitement. De nouveau, aujourd'hui, je pense que si j'accouchais, je serais un peu plus persévérante sur ce point-là parce que j'ai un peu plus conscience des bienfaits de l'allaitement et que peut-être je suis passée à côté de quelque chose qui était génial, mais en même temps, j'ai pas été privée de fusion avec mon bébé parce que j'ai dormi avec elle pendant 2 mois, donc, ou même 3, je crois, je ne sais plus trop. L'allaitement n'a pas été facile et du coup, je n'ai pas persévéré. Je suis vite passée au biberon. Mais elle a toujours bien pris les biberons. Elle a grosso modo bien dormi. Je crois qu'à 3 mois, elle a fait ses nuits. Mais après, comme partout, elle s'est réveillée. On se dit, ah, notre bébé fait ses nuits. Mais en fait, bon, pendant 3 ans, on ne dort pas bien avec un bébé. Donc voilà, mais je ne crois pas que c'était pire que pour quelqu'un d'autre ou mieux que pour quelqu'un d'autre, je crois que c'était standard. Mais
tu disais que tu étais dans ta bulle avec ton bébé et c'est vrai que quand tu reprends le boulot, sortir de cette bulle, c'est compliqué, mais j'imagine que toi, ça devait être encore plus compliqué peut-être.
Non, ça allait. De nouveau, il y a 10 ans, mon aîné va avoir 10 ans. Il y a 10 ans, on n'était pas encore aussi... Il n'y avait pas encore, c'était les débuts d'Instagram, c'était les débuts des... Enfin, il y avait Facebook, mais je veux dire... Donc, on ne perdait pas de temps sur les réseaux sociaux. Heureusement que je ne suis pas devenue mère maintenant, parce que le temps que je perds sur les réseaux sociaux, c'est effrayant. Donc, on avait moins... Enfin, aujourd'hui, le contact direct avec le public, c'est souvent les réseaux sociaux. Mm-hmm. Sinon, quand on fait son travail de journaliste et quand on est à l'antenne, ben, je n'étais pas confrontée au day-to-day dans mon boulot, ni à des questions, ni à devoir... justifier ma vie ou ceci, ou expliquer ou publier sur les réseaux sociaux. J'ai vécu une maternité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des personnalités publiques, mais et ma grossesse, et mon accouchement, et mon mariage, et les naissances, et tout ça, ça s'est fait hors, complètement hors réseaux sociaux. Et j'ai vaguement partagé une ou deux photos au début, comme maman fière d'avoir une jeune maman, mais il n'y avait pas du tout le partage qu'il y a aujourd'hui de nos vies. De nos vies au day-to-day.
À partir de quel moment vous décidez de mettre le projet second bébé en route ? Est-ce que ça a été une évidence ?
Pas du tout, parce que je ne sais pas pourquoi, dans une espèce de confusion, pour mon mari, c'était très clair qu'un enfant, c'était bien. Et moi, dans ma tête, c'était très clair que j'en voulais deux. Et en fait, je ne sais pas, c'est l'amour a dû nous faire gommer et l'un et l'autre nos petites deals de départ. Et du coup, moi, en connaissant la maternité, j'ai trouvé ça tellement génial qu'il était évident. Je me suis souvenue même qu'à l'hôpital, je me suis dit oh, « Je veux pas que ce soit la dernière fois de connaître ça. » C'est tellement magique de rencontrer son bébé, de le sniffer, de cette perfection d'un petit être que tu as créé. Quoi. Enfin, moi, je dis encore tous les jours à ma fille, je lui dis, oh, c'est moi qui t'ai fabriqué, quoi. Je lui dis, t'as vu comme j'ai bien travaillé. Je suis tellement fière d'elle, mais de moi, quoi. Je trouve qu'elle est tellement géniale. Enfin, elles sont tellement géniales, mes filles, que c'est vrai, je lui dis à mon aîné, parce que je lui dis aussi, c'est toi qui m'as fait devenir maman. À ma seconde, je lui dis plein d'autres trucs, mais mon aîné, je lui dis, c'est toi qui m'as fait devenir maman. J'ai dit, c'est moi qui t'ai fabriqué, qu'est-ce que j'ai bien travaillé. À l'hôpital, je me suis déjà dit, oh, je veux revivre ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'il avait déjà 4 enfants, voilà, il était moins chaud. Et donc ça a été plus une vraie discussion de couple et un vrai cadeau d'amour qui m'a fait d'accepter de refaire un 5e enfant pour lui. Pour moi, c'était ma 2e, donc ça semblait plus logique. J'avais envie que même si mon aîné avait des frères et sœurs par ailleurs... Comme ils étaient déjà plus grands, qu'ils étaient déjà presque en train de quitter la maison, elle aurait quand même été au jour le jour, elle aurait quand même été élevée assez fort comme une enfant unique et j'avais pas envie de ça. Et donc Laurent m'a vraiment fait un cadeau de l'amour de fabriquer ma seconde. Toute ma vie, ça me rendra amoureuse de lui, de savoir que c'était pas son souhait. Et je le dis de façon très ouverte parce qu'aujourd'hui, évidemment qu'il aime Georgia, notre 2e, de façon immense et qu'on jamais on se dit oh, on regrette qu'elle soit là. Mais je le dis de façon ouverte que c'était pas forcément son projet et qu'en fait c'est un bonheur de l'avoir. Quand il m'a dit ok, je n'ai pas envie de te demander ce sacrifice de ne pas avoir de 2e enfant, je vois que c'est trop important pour toi. On va le faire. Et du coup, je me suis dit ok, on le fait go 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 parce que. Mais parce que aussi, de nouveau, après, il va être plus âgé, on aura moins envie, on va sortir des bébés et tout ça, on aura moins envie. Alors que, objectivement, je pense que 2 ans d'écart entre des enfants, je ne sais pas pourquoi on se met cette pression en tête que c'est l'écart idéal. Moi, je trouve que c'est quand même sport, quoi. C'est quand même rapproché. C'est fatigant. Donc, si on n'est pas pressé, je ne vois pas pourquoi on les fait à 2 ans d'écart. J'ai l'impression que c'est quand même plus relax de mettre un peu plus d'écart. Ouais. Pourtant, je vois tout le monde enchaîne les enfants à 2 ans d'écart. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ceux qui en veulent 3-4, je comprends, parce que du coup, ils n'ont pas envie d'étaler pendant des années. Moi, dans une autre vie, j'aurais peut-être pris un peu plus de temps, au moins 3 ans. Mais là, voilà, le modèle était celui que j'avais. Et donc, on les a enchaînés, entre guillemets. Il y en a qui font encore plus rapide. Moi, mon petit frère, il a eu 3 enfants en 3 ans et demi. Donc, voilà. Ouais. Mais ça dépend à quel âge on commence aussi. Si on commence à avoir des enfants autour de 40 ans, je comprends qu'on n'ait pas envie d'attendre 5 ans avant d'avoir un deuxième.
Oui, tout à fait.
Surtout si on en veut un troisième. Donc, évidemment, il n'y a pas de règles.
Mais donc, voilà, vous avez attendu. Donc, c'était deux ans.
Elles ont un peu plus de 2 ans. 2 ans et 3 mois de...
Ta deuxième grossesse, est-ce que tu as le souvenir que c'était plus compliqué à gérer?
Pas vraiment non plus. Bon, je pense quand même plus fatigant parce qu'on a un premier bébé dont il faut s'occuper, évident. Et je pense qu'on a moins de temps pour se poser, se dire aussi qu'est-ce que je souhaite pour l'arrivée de cet enfant et tout ça. Enfin, je l'avais déjà pas fait pour le premier, donc voilà. Pour le deuxième, c'est sûr qu'on avance, on doit surtout s'occuper du premier. Puis j'avais mon boulot, je travaillais quand même encore aussi beaucoup. Donc non, j'ai pas préparé plus ma seconde grossesse, j'ai pas pris plus de temps, mais j'ai eu une grossesse aussi facile, fatigante parce que c'était une année où l'actualité, j'ai souvenir que c'est une année d'actualité très très difficile, où il y a eu notamment les attentats à Paris, les attentats du 22 mars à Bruxelles, et j'étais enceinte, et j'étais beaucoup à l'antenne. Et j'ai souvenir que émotionnellement c'était plus lourd parce que bon, je pense que les hormones étaient là, j'étais enceinte et je conscientisais un peu plus comme ça le monde dans lequel mon bébé allait arriver. Donc ça, j'ai souvenir que moralement c'était une grossesse qui était peut-être un peu plus difficile par le contexte de l'actualité à l'époque 2015-2016. Et puis j'étais un peu plus fatiguée parce que j'étais déjà maman. Que je travaillais, mais aussi non, globalement, j'ai eu aussi une grossesse facile, j'ai pas eu de difficultés, et rebelote, le dernier mois, j'étais alitée. C'est fort le même schéma que ma première grossesse.
Et alors l'année donc, où tu es enceinte de ta deuxième a été aussi chamboulée, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc j'ai accouché en avril, oui, 25 avril, et j'ai fait mes 3 mois de congé maternité, donc mai, juin, juillet, et je m'apprêtais à recommencer au boulot en août 2016, et mais vraiment, on est genre une semaine avant que je reprenne le boulot de mon congé maternité. Et là, on découvre que mon aîné a donc un cancer. Donc mon bébé, ma seconde Georgia, avait 3 mois, quoi. Enfin, j'avais vraiment un bébé, je sortais de mon congé maternité. Et mon aîné avait donc 2 ans et demi.
Comment vous découvrez ça, alors?
En fait, on était en vacances, donc c'était l'été. On était en vacances et Théodora devenait propre à ce moment-là. Et comme tous les bébés... elle avait un ventre assez... tu sais, le ventre de bébé, quoi, assez gros. Et comme elle devenait propre, elle était plus en petite culotte, donc je sais pas, on voyait plus. C'est comme si j'avais une vision un peu plus attentive sur le fait que son ventre était quand même vraiment plus gros qu'un enfant qui a un gros bidou, mais c'est juste le bidou de l'enfance. Théodora, ça m'a alertée. Et puis j'ai senti à l'intérieur que, comme il y avait une masse un peu plus dure, quoi. Et j'ai vraiment senti. Et du coup, en rentrant de vacances, j'ai appelé ma pédiatre qui a fait un examen médical et qui m'a dit, écoute, oui, il y a une masse, j'aimerais bien que tu ailles faire une radio à l'hôpital. Et j'étais encore avec mon bébé dans son maxi-cosy chez le pédiatre. Et j'ai dit, écoute, je vais d'abord rentrer à la maison parce que je dois donner un biberon. Et elle m'a dit, non, je t'envoie en urgence. Tu vas avec tes filles en urgence à l'hôpital.
Ouais,
et en fait, j'ai très vite percuté que c'était grave. Enfin, en fait, déjà chez ma pédiatre, j'ai compris que c'était grave très vite. Et donc, on est allé à l'hôpital, on a fait des radios. On nous a tout de suite dit que... Enfin, le médecin qui est descendu lire la radio, enfin l'échographie précisément, s'est présenté en disant qu'elle était chef du service d'oncologie pédiatrique. Donc, j'ai tout de suite compris. Et je me suis tout de suite mis en retrait du boulot de façon immédiate.
Donc, à part cette masse que toi, t'as senti, elle n'avait jamais montré d'autres symptômes?
Non. Je sais que son type de cancer, qui était un néphroblastome, donc il y a un cancer du rein... Je sais que si on avait eu un peu de chance, on l'aurait vu dans ses urines parce que généralement, c'est un cancer qui peut donner du sang dans les urines. Et je pense que si on avait eu cette chance-là, en fait, c'est bizarre de dire ça, on l'aurait pu le diagnostiquer plus tôt. Et comme elle n'avait aucun symptôme, qu'elle était en super forme. Enfin, il n'y avait vraiment rien, à part le fait que tout à coup, je me suis dit, tiens, son ventre est quand même un peu plus gros, mais je dirais une semaine avant, on avait des copains à la piscine, en vacances. Personne n'a rien dit, enfin, personne s'est dit, oh, quand même. Donc, c'est vraiment juste moi, mon regard de maman, quoi. Sinon, non, on n'aurait rien dit, on n'a rien vu. Mais donc, on l'a découvert assez tard, en fait. On était déjà assez fort avancé dans les stades de détection de son cancer.
Comment on fait face quand on apprend une nouvelle comme ça?
On accepte toutes les émotions qui nous traversent, c'est-à-dire le désarroi. Enfin, d'abord le désarroi, l'incompréhension, la peur. Oui, la peur, la colère. Enfin, on passe par toutes les, par tout l'arc-en-ciel des émotions. Donc, on fait face à tout ça, mais on a quand même sa fille. Et moi, je voulais pas qu'elle ait peur, elle. Je voulais pas qu'elle ait peur. Je voulais pas qu'elle soit inquiète. Je voulais pas lui transmettre ça. De façon instinctive, et ça, je pense, c'est pas moi, c'est n'importe quelle maman aurait fait pareil. De façon instinctive, tu prends sur toi de te dire, ok, à l'intérieur, je suis en miettes, mais devant ma fille, c'est happy face, ça va, ma chérie, tout va bien, je t'aime, tout va bien, ça va aller. Donc, et en fait, de devoir faire ça pour ses enfants, de devoir donner le change, rendre tout comme une expérience. Enfin, Théodora, on a rendu l'hôpital incroyable. C'était la fête, on allait faire, on allait voir ce qu'elle est dans son ventre, on allait faire une échographie, c'était incroyable, on allait avoir un tuyau qui allait aller dans son bras, qui allait lui donner un médicament magique. Enfin, ça demandait énormément d'énergie, mais d'avoir fait ça pendant 9 mois... en fait, m'a maintenu à flot aussi, quoi. Ça m'obligeait à dire, ok, mais on va de l'avant, ça va aller. C'était mon combat, quoi. J'ai mis les mains dedans. À un moment, j'ai dit, ok, maintenant, j'ai pleuré. Je sais que c'est trash, je sais que ça va être dur, mais maintenant...
Parce qu'elle était à l'âge où elle comprenait.
Oui et non, c'est une chance inouïe aussi. On a eu beaucoup de chance, on a eu de la malchance, une grosse malchance, mais on a eu aussi énormément de chance dans ce parcours. C'est que quand même, 2 ans et demi, c'est un âge où les enfants ne se projettent pas dans la maladie ou dans la tristesse. En 2 secondes, sa nouvelle réalité, c'était normalement t'allais à la crèche, normalement tu devais aller à l'école, et en fait ta nouvelle réalité, c'est l'hôpital. Et ça n'a jamais été big deal. Enfin, elle a accepté, les enfants sont beaucoup plus résilients que nous, les enfants acceptent beaucoup mieux que nous, et en fait c'est eux qui nous montrent le chemin, c'est eux qui nous montrent la voie, et elle était très sereine. Je me disais, tant qu'elle est sereine, tant qu'elle n'est pas inquiète, tant qu'elle, elle a l'enfance, elle a ses parents, elle a la magie, elle a l'amour, ben en fait, ça va aller. Mm-hmm. Et du coup, ça nous a vachement aidés. Parce que les enfants ne se projettent pas, non. Elle, elle ne se dit pas, oh là là, mon Dieu, 37 semaines de chimiothérapie, c'est pas bientôt la fin, quoi. Elle, ce qu'elle attend, c'est le goûter de l'heure d'après et le dessin animé qu'on lui a promis peut-être à la fin de la semaine. Et enfin, je veux dire, mon médecin m'a dit ça au début, il m'a dit, tu sais... Il n'y a qu'une mère pour sauver son enfant, et tant qu'elle a de l'amour, elle est sauvée. Et c'est vrai, c'est simple, c'est so simple, mais en fait, moi, d'entendre ça, ça m'a donné une puissance. Il m'a dit, il n'y a qu'une mère qui peut faire ce que tu fais. Et je ne minimise pas le rôle des pères, je pense que les pères sont essentiels, mais je voudrais quand même magnifier le rôle d'une mère, j'en suis convaincue. Il y a une puissance de l'acte et de l'amour maternel qui te fait faire des trucs inouïs que tu peux même pas imaginer que tu as cet âge-là en toi. Et tu sais le faire, même quand il t'arrive des trucs horribles, la puissance d'un amour maternel te fait le faire. C'est pas moi qui suis superwoman, c'est n'importe quelle mère le ferait, je crois, avec des degrés d'endurance et de résilience plus ou moins important, mais quand même, quand il s'agit de sauver son enfant, on le fait. Cette puissance de la maternité te fait endosser cette mission-là.
Et c'était quoi votre réalité? À quoi ressemblaient vos journées, typiquement, en fait, à ce moment-là?
Alors, en fait, les journées, c'était confinement. Vous vous souvenez du confinement?
Oui.
Ben, c'était confinement avant l'heure. C'est-à-dire que Laurent travaillait, mais moi, je suis restée avec mes filles H24 pendant 9 mois à la maison. On avait un peu du passage, mais le minimum, parce que comme elle était immunodéprimée, Théodora, on ne pouvait pas avoir beaucoup d'amis, pas de plein de jeux, pas de crèche, pas d'école, pas beaucoup de visites, pas de goûter d'anniversaire, pas de sortie, parce que L'immunodépression fait que tu peux vite choper toutes les crasses qui règnent. C'était l'hiver en plus. Donc c'était confinement. Et le vendredi, on allait à l'hôpital. Donc le vendredi, elle avait ses chimio. On allait tous les vendredis à l'hôpital toute la journée. Heureusement, en ambulatoire, donc on arrivait le matin, on pouvait ressortir le soir. Et puis on a eu quelques semaines d'hospitalisation comme ça, plic-ploc, quand elle a été opérée, le mise en route du traitement, des trucs comme ça. Mais grosso modo, ça a été 9 mois à la maison avec mes deux filles. Et je l'ai souvent dit, mais j'en suis toujours aussi convaincue, ça a été 9 mois parmi les plus lumineux de ma vie. Malgré la maladie, malgré tout l'enfer trash du cancer, qui est une vraie réalité, moi, j'ai eu cette chance inouïe. Mes deux filles étaient censées aller rentrer en classe d'accueil et l'autre rentrer à la crèche. J'étais censée travailler. Elle passait 9 mois à courir entre tout. Et j'ai passé 9 mois sur le tapis de mon salon avec mes deux filles à faire des blocs, faire de plasticine, faire de la peinture, lire des livres, des tonnes de milliards de livres. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 9 mois, honnêtement. Et la maladie aussi, voilà, les traitements, les chimios, bien sûr. Mais beaucoup de confinement à nous quatre à la maison. Et je crois que c'était fondateur dans ma relation avec mes filles. Bon, même si elles ne s'en souviennent pas du tout. Elles pensent aujourd'hui que je suis une maman très occupée, trop sur son téléphone et trop ceci, trop cela. Et parfois, je leur rappelle que j'ai quand même passé 9 mois de ma vie sans mon téléphone. Et plus encore, parce que je suis quand même vraiment une maman hyper présente. Maintenant, mon rythme de vie change un peu professionnellement. Mais grâce au journal télévisé et aux horaires du 13h, j'ai été tous les jours à l'école à 15h20 chercher mes filles à l'école. Pas le mercredi parce que c'était ma maman, mais sinon, parfois mes filles ne se rendent pas compte du luxe que c'est. Je veux dire, elles n'avaient jamais été à la garderie avant il y a un mois. Et donc, quand maintenant, parfois, elles restent un peu à la garderie et que j'arrive en courant en disant « Oh là là, tu restes à la garderie, c'est horrible !» Je me dis, mais en fait, je suis tarée. C'est la réalité des enfants aussi d'accepter que leur maman travaille et qu'elles doivent rester un peu à la garderie. Mais donc, elles se souviennent moins ou pas du tout de ces mois-là, de ces années-là où j'étais vraiment très focus. Parce qu'après, j'ai pris au global plus presque un an de pause carrière.
Vous lui en parlez encore ?
Oui, super. On ne saoule pas avec ça. On n'est pas tous les jours, oh là là, on a eu un cancer et tout. Mais bon, il y a des photos d'elle chauve à la maison. Elle sait qu'elle a eu un cancer. De toute façon, elle a une énorme cicatrice pour lui rappeler. Elle sait tout son parcours. Elle en est hyper fière. D'ailleurs, je crois qu'elle en fait une force. Mais on n'est pas non plus pour la saouler tous les jours de... Je ne veux pas que le cancer détermine toute sa vie. Je ne veux pas que toute sa vie, elle soit l'enfant survivor du cancer. Et moi, pareil. Je n'ai pas envie que toute ma vie, on me catalogue comme la mère cancer. Voilà, c'est vrai que ça... Ça a été quelque chose de très fort dans notre vie, évidemment. Mais je ne crois pas que ça va déterminer pour le restant de nos jours qui on est. Il y a plein de survivants du cancer, dans plein de types de cancers. Malheureusement, tous les foyers sont touchés de près ou de loin. Et je pense qu'il y a une vie après le cancer, heureusement, qu'on en fait une force et puis qu'on arrive un peu à oublier et à relativiser, à accepter, à en rigoler, à en sourire, à dédramatiser, parce qu'il y a aussi des cancers qui se terminent bien, heureusement.
Là, du fait de la maladie de Théodora, est-ce que tu te sentais un peu privée de profiter des premiers mois de ta deuxième ?
On m'a souvent alertée. Enfin, on m'a beaucoup posé la question. Et j'ai tellement été alertée à ce point-là que j'ai été hyper attentive. Et on m'a souvent dit aussi, parce que parfois, bon, ma seconde a été un bébé adorablissime. Je crois qu'elle avait compris que l'attention... Enfin, qu'on avait autre chose sur le feu à gérer. Et donc, elle a dormi, mais c'était un bébé. On la mettait dans son lit, elle dormait. Elle n'était que sourire. Enfin, c'était un bébé soleil, amour, joie. Bébé joie, 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 joie. Mais elle était beaucoup plus chiante après. Vraiment, vraiment chiante après. Et on m'a souvent dit, oui, mais c'est normal. Elle n'a pas eu beaucoup d'attention quand elle était bébé. Et donc, maintenant, elle te fait payer. J'y crois pas trop. Parce que honnêtement, de nouveau, elle était censée être à la crèche, Georgia, et elle m'a eu en full time à la maison. Elle a été à la crèche, elle, qu'à partir de 1 an. Donc elle a été upgradée comme bébé, mais à fond la caisse. Donc Oui, dans un coin de ma tête, j'étais évidemment inquiète pour sa sœur et ça a certainement pris beaucoup de place dans notre vie familiale. Mais j'ai sniffé mon bébé vraiment pendant des mois et des mois et je l'avais dans mes bras alors que j'étais à la maison et que Théodora était malade et avait besoin de moi. Mais j'étais vraiment focus sur les deux. J'ai pas l'impression qu'on m'a volé mon congé maternité, pas parce que j'étais en congé maternité insouciante, mais j'ai profité d'un congé maternité normal. Et après, j'étais un an à la maison.
Là, du coup, donc elles ont 9 et 7 ans. Est-ce qu'il y a un âge que t'as préféré, finalement?
Honnêtement, j'aime tout. Je trouve que c'est génial. Moi, j'ai adoré la petite enfance. J'ai vraiment aimé le micro bébé qui dort sur toi, les petites odeurs de bébé. J'ai adoré. J'ai adoré après. J'ai trouvé plus fatigant la période panade, apprentissage à marcher. Mais j'ai adoré aussi, je revois des vidéos sur mon téléphone, l'apprentissage de la parole. Oh, non, j'ai tout aimé. Et maintenant, elles sont dans un âge magique où elles sont encore dans l'enfance, mais plus autonomes. Donc on peut commencer à voyager, on fait beaucoup d'expositions avec elles, on fait des jeux de société, on parle, elles posent plein de questions, elles sont malines. Enfin, je trouve ça génial de les voir poser des questions, apprendre, absorber, découvrir dans l'autonomie. Mais en même temps, elles ne sont pas encore des ados, donc je profite encore de l'enfance, quoi, parce que je crois que c'est les années magique, maintenant, où on n'est plus esclave de la petite enfance, parce que c'est vraiment fatigant, où on dort. Enfin, je dirais, moi, ma fille aînée, elle dort jusqu'à 9h30 le matin, le week-end, donc c'est...
Est-ce que le fait d'être parent, quoi, d'être maman, et d'être baignée non-stop dans cette actualité, c'est quelque chose qui est assez dur, parce que, je veux dire, d'autres parents pourraient se dire « Ok, je me déconnecte un peu de l'actu », mais toi, tu pouvais concrètement jamais.
Non. Heureusement, j'ai eu une belle alternance au journal télévisé. Je travaillais en alternance une semaine sur deux. Il y a une semaine où je présentais le journal et j'étais full actu. Et l'autre semaine où je travaillais, parce que j'ai toujours travaillé à temps plein, mais l'autre semaine, je faisais toute la production des invités de la semaine d'après. Donc j'étais dans un mode beaucoup plus... je préparais des interviews, je lisais des livres, je voyais les films, j'écoutais les CD, parce qu'on avait... il y a toujours dans le RTL Info 13h toute une partie invitée, plus culturelle. Et donc, je travaillais en alternance avec Olivier Skonians, où une semaine, c'était vraiment full actu journal, et une semaine en mode production de tous nos invités. Et donc, j'avais à chaque fois un sas de in and out d'actualité. Donc, c'était déjà assez confortable. Et oui, c'est sûr que ça fait partie aussi des choses pour lesquelles aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre un peu step back par rapport au journal, parce que l'actualité, au fil du temps, on pourrait penser qu'avec les années, on a une forme d'habitude ou de lassitude par rapport à l'actualité. Et en fait, moi, plus ça allait et plus j'étais imprégnée des événements de l'actu. Et donc, j'arrivais de moins en moins à mettre à distance les drames de l'actualité. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis dit, et que j'ai eu une proposition professionnelle de faire autre chose, et je me suis dit, ah, mais... C'était déjà dans un coin de ma tête et puis finalement je me suis dit c'est le bon moment. Je commençais à avoir trop négativement d'absorption de l'actualité. Ce qu'il faut dire aux jeunes mamans qui nous écoutent et qui sont dans un tunnel de c'est dur, tout passe. L'alimentation, à un moment ils mangent, le sommeil, à un moment ils dorment, les crises, à un moment ils mettent leurs chaussettes, je veux dire... Tout passe. Alors, quand on est dans le tunnel, c'est dur. Vraiment. Moi, mes filles m'ont aussi épuisée. Il y a des moments vraiment d'épuisement, de grande fatigue. Pff, j'en ai marre, vraiment. Il y a eu des... Mais je crois que c'est toutes les mamans. Il faut relativiser aussi les difficultés. Enfin, je sais que c'est dur et je sais que c'est fatigant. Je crois que c'est vraiment la fatigue qui, du coup, en ricochet... nous fait péter un câble sur plein d'autres trucs et donc nous rendre moins patientes sur plein d'autres choses et donc nous rendre mauvaise maman, entre guillemets. Je crois que c'est vraiment la fatigue, mais que sur tout le reste, il faut lâcher parce qu'on perd beaucoup d'énergie à vouloir faire tout bien alors qu'en fait, à un moment, de façon naturelle, les enfants se grandissent et donc arrêtent leur crise, arrêtent leur... voilà. Bon, après, il faut avoir un cadre, il faut quand même avoir des enfants... bien élevé et il ne faut pas lâcher sur certaines choses qui sont de l'ordre de l'éducation. Moi, je suis vraiment Je suis une maman hyper laxiste, c'est-à-dire que je suis. Je pensais aller être, que j'allais être sévère, je ne le suis pas du tout. Si mes enfants me demandent de regarder un dessin animé de plus, je dis toujours oui. Et s'ils me demandent de manger un bonbon de plus, généralement, je dis toujours oui aussi. Donc je suis grosso modo assez laxiste. Mais il y a des trucs sur l'éducation pour lesquels je lâche pas non plus. Je suis laxiste sur un bonbon, un dessin animé, parce que je sais que c'est des petites filles quand même, qui sont élevées avec des valeurs, qui disent merci, qui disent bonjour madame, qui sont honnêtes, qui sont. Enfin voilà, on ment pas, on triche pas, enfin là, il y a des valeurs, des choses éducationnelles sur lesquelles je vais jamais lâcher. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut temporiser aussi parce qu'on perd beaucoup d'énergie à essayer de leur faire mettre les deux mêmes chaussettes alors que à quoi bon? Moi, mes filles ont déjà parfois été avec un pantalon de pyjama à l'école parce que je me disais, mais en fait, c'est pas grave. Et tout passe. Et aujourd'hui, elles ont 9 ans et 7 ans. Et parfois, j'en arrive à me dire, oh, j'ai besoin encore de. J'aimerais bien encore les habiller le matin parce qu'elles ont trop grandi et que je. Ça passe vite, la petite enfant.
J'avais encore une question. Quelle leçon, toi, t'as appris en devenant maman?
C'est assez bateau, mais je pense que quand même, son intuition. On est bombardé d'injonctions de « il faudrait que, Yaka, c'est mieux si je fais comme ça, et tel livre, et telle nana sur Instagram a dit que, et tel produit est meilleur qu'un autre. » Et en fait, ça peut être aussi épuisant. Fatigant, stressant, ne serait-ce que de prendre l'information à droite à gauche, c'est déjà presque une charge mentale en soi. Et donc moi j'ai la chance d'être devenue maman quand il n'y avait pas encore tout ça. C'était plus light en tout cas, enfin il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était déjà beaucoup plus relaxant. Et je crois que la seule chose qui compte, la seule chose que véritablement un enfant a besoin, bah, c'est de l'amour. Et je pense qu'on se trompe jamais en étant aimant et en disant à nos enfants qu'on les aime. Et donc on peut faire plein d'erreurs de maman. Je crois que quand on les aime, on ne se trompe pas. Et quand on passe du temps de qualité avec l'échange d'amour avec nos enfants, bah, franchement, on peut faire beaucoup de bêtises à côté parce que ça répare tout quand même. Et de se dire que franchement, tant qu'on les aime, il peut rien d'arriver de très grave. On fait aucune bêtise en aimant nos enfants. Et ça permet de relativiser quand même pas mal de choses. Et tout passe. Vraiment, tout passe.
Merci beaucoup, Alice.
Avec
Merci.
Grand plaisir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou 5 étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres. Bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tourbillon de la vie.